avec le plus de ferveur, le plus de cœur, eh bien, indiscutablement, n'importe quel prêtre qui donne des exercices dirait c'est la contemplation que nous allons faire tout de suite. Pourquoi ? Parce que nous arrivons au sommet de notre christianisme. Le Verbe de Dieu qui monte à l'autel de la croix alors qu'il est innocent et que c'est nous les pécheurs. Voilà pourquoi le signe du chrétien, c'est le signe de la croix. Alors saint Ignace nous dit dans quelle disposition nous devons faire cette contemplation. Il nous dit, il n'y a qu'à regarder ce que dit saint Paul. Saint Paul qui dit, je ne connais qu'une chose, c'est le Christ et le Christ crucifié. Et saint Augustin, d'une phrase aussi très belle, il dit « La croix, le Seigneur, n'est pas seulement le lit d'un mourant, mais la chair du haut de laquelle notre Seigneur nous enseigne toutes les vertus chrétiennes. Espérance, charité, foi, pénitence, pardon des injures, etc. Tout y est. » Et saint Bonaventure ajoute aussi ceci qui est très beau. Il dit la contemplation de la passion fait fondre comme de la cire les cœurs durs comme de la pierre. Et on a vu ça. Les retraites où des hommes ne sont pas confessés, ne sont pas communiés. Ils sont restés par curiosité, par honnêteté, quelquefois, ils avaient dit que j'irais jusqu'au bout. Mais à la passion, ils se sont rendus et en larmes. Vous voyez, une vertu particulière avec la passion. Si vous avez écouté le Père Mathieu, je suis allé le voir plusieurs fois à Besançon, c'était un des plus grands, on peut dire, le plus grand exorciste de France. Mais pour pouvoir de faire les exorcismes, puis il faut la pouvoir de l'évêque, c'est une pouvoir extraordinaire. Et le Père Mathieu, et je lui ai demandé, j'avais besoin de conseils de sa part, quand il faisait sur des possédés où c'est sûr que c'est un possédé, tant qu'il faisait les prières, le possédé ne bougeait pas. Mais quand il faisait le signe de croix, soit avec une croix, soit avec la main, le possédé manifestait. Des fois, il se levait de terre. Des cas vraiment, des prodiges diaboliques. Sa tête qui tourne 90 degrés. On ne peut même pas enlever 6 hommes sur lui, et il se lève quand même, etc. Voyez-vous, le démon ne supporte pas la croix. Il sait que c'est par là qu'il a été vaincu. Sacrifice rédempteur. Donc, mesdames et messieurs, faisons cette contemplation vraiment à toute notre ferveur possible. Si nous sommes des gens de cœur, c'est là. Il faut le montrer. Devant Dieu. Encore une fois, moi ça sert, c'est le leitmotiv de tout. Moi je suis pécheur, lui est innocent et saint et sans tache. Et lui paye la note de mes péchés. Alors que c'est moi le coupable. Alors saint Ignace nous donne ce conseil qui est excellent. Bon, déjà, l'abbé tout à l'heure a dû vous le dire, sur la page 398. 398. Vous voyez le troisième prélude. Aux contemplations, il y a trois préludes. Et là, il dit bien. Je demanderai à Dieu la tristesse, la douleur, la confusion, puisque c'est pour mes péchés que le Seigneur a sa passion. C'est le troisième prélude. Page 399, à la quatrième ligne, il recommence, Saint Ignace, il veut absolument que nous ne fassions pas ça d'une façon purement intellectuelle. Il dit, je commencerai à réunir toutes les forces de mon âme, pour m'exciter à la douleur, à la tristesse, aux larmes. Voilà, etc. Ça va être dans, tout au long de cette contemplation. Alors, il y a aussi quelque chose de particulier. Vous n'irez pas dans vos chambres quand je vous expose les différents points de la contemplation. Nous irons à la chapelle. C'est exceptionnel, puisque nous irons faire notre consécration à Notre-Dame des Sept Douleurs, à la Pietà, qui est à la chapelle. Ce sera la chapelle. Donc, en sortant d'ici, nous allons à la chapelle. Alors, je voudrais reprendre là où nous nous sommes arrêtés en début d'après-midi. Le plus grand procès de tous les temps va s'achever par la condamnation du juste, de l'innocent, toujours avec un majuscule. Alors, vous avez vu que vous avez contemplé ce cruel couronnement d'épines, puisqu'il s'est dit roi. Bon. Alors, Pilate est allé dans ce sous-sol, l'Hydrostratos, et il voit notre Seigneur, ses ruisseaux de sang à travers tout le corps, et on le fait monter au prétoire. Ces marches-là, c'est celles qui sont à Rome, la Scala Sancta, notre Seigneur les a montées et il y a certainement eu du précieux sang sur ces marches. Notre Seigneur arrive en haut et Pilate devance. Et il fait taire la foule. Et notre Seigneur, et il dit, je vous amène maintenant pour que vous voyez que je ne trouve aucun motif de condamnation. Encore une fois, Pilate, innocent, le dit. Notre Seigneur arrive en haut, avec ce grand manteau écarlate, ce sceptre d'érision, cette couronne d'épines, et là vous avez cette phrase, « Ecce homo, voilà l'homme !» Les Juifs auraient pu se laisser toucher. Mais non. Enlève-le de là, toi-le ! Voyez la haine. N'oubliez pas ça, mes chers messieurs, vous le voyez tous les jours. Le refus de la vérité engendre la haine. C'est dans Saint Paul, c'est dans Saint Augustin, et nous avons une illustration parfaite là. Enlève-le de là ! Crucifie-le ! La haine. Voyez, Pilate aussi, j'insiste, comme beaucoup de pères de l'Église le font, Pilate a usé encore du principe démocratique. Vous avez remarqué que de quart d'heure en quart d'heure, la situation s'est dégradée dans ce plus grand procès de tous les temps. À cause de quoi ? Les deux étendards. Personne ne veut perdre sa place. La place, c'est l'argent. Personne ne veut perdre la face. Les honneurs. Alors, vous voyez, il va dire cinq fois qu'il est innocent, Pilate, mais quand même, il va laisser condamner. N'oublions pas, messieurs, ces deux étendards. Alors, il emploie le principe démocratique. Quand je leur ai montré à la foule, ils vont se laisser toucher. Comment, Pilate ? Ce principe démocratique est diabolique. C'est toi le chef, le responsable. Et ce qui devait arriver est arrivé, n'est-ce pas ? Crucifie-le ! Crucifie-le ! Crucifiez votre roi, non pas d'autre roi que César. Ils font montre de patriotisme. Et alors, le Pilate, n'est-ce pas, il va aller, les dernières l'hésitation de Pilate. Il fait venir ton Seigneur encore une fois. Tu es roi? Oui, tu l'as dit, je le suis. Et ça recommence, ce dialogue, il essaye d'essayer de voir. Il voit bien, Pilate. Mais non. Alors, les Juifs voient bien que Pilate est en train de céder et qu'il ne m'a pas, peut-être pas laissé condamner à mort. Alors là, nous avons, et ça vous retrouvez, il faut savoir dans l'Écriture, pour Saint Matthieu, vous trouvez ça plusieurs ans, quand Saint Matthieu explique que dans une foule, quelqu'un se met à invectiver ou à parler, Saint Matthieu dit « il », pour lui, c'est la foule. Il ne dit pas « un tel et un tel ». Voilà pourquoi tout à l'heure, pour les bons larrons, il dira « et ceux qui étaient crucifiés avec lui, l'insultaient aussi ». Pour lui, alors là, cette phrase, l'Évangile dit bien que c'est les Juifs, mais une foule en même temps, évidemment l'intention y est, il y a certains qui l'ont crié. Mais c'est Caïphe. Ils font la foule. Et qui invective Pilate. Pilate, t'as pas compris? J'ai dit Dieu. Pour nous, c'est la mort. T'as pas compris encore? Alors, c'est là que Pilate est remué. Pensez bien. Vous avez vu souvent ce tableau. Il revient sur son siège, la main sous le menton. Il s'est dit Dieu, là. Alors, évidemment, Pilate, ça le travaille encore plus. Et les hurlements. Crucifie-le! 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 Et voilà, ça arrive comme une chape de plomb, n'est-ce pas? Puis, après ce hurlement, vous voyez, le principe démocratique. On demande à la base, qu'est-ce qu'elle en pense? Et puis, ce qui devait arriver est arrivé, n'est-ce pas? Puis il a dit, il leur livra pour être crucifié. Il leur livra pour être crucifié. Mais en même temps, il se lave les mains. C'était très symbolique, n'est-ce pas? Je suis innocent du sang de ce juste! Pour la cinquième fois, et donc il dit qu'il est innocent. Et alors, vous avez, messieurs, cette phrase qui vous dispense de lire un tas de livres, n'est-ce pas? Les Juifs qui hurlent « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants !» Aïe. Messieurs, cette phrase vous dispense de lire un tas de livres. Le judaïsme, les prodromes d'Israël, Sion et les Juifs. Tous les six mois, il y a un nouveau livre là, pas la peine de lire. Vous avez là tout le mystère d'Israël. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Peuple intelligent. Peuple intrigant. Dans toutes les intrigues politiques, ils y sont à peu près. Peuple qui est partout chez lui. Je vous demande de pas ni sourire, ni rire. Ce n'est pas le moment. C'est un effort, s'il vous plaît. Rien n'y porte, d'ailleurs. Peuple intrigant. Peuple qui n'est nulle part chez lui, qui est partout. Et alors, un phénomène qui est absolument anormal. Peuple qui ne s'assimile pas. Toutes les peuplades d'Asiatique, d'Afrique, au bout de quelques générations, sont assimilés par les Juifs. C'est un phénomène unique dans l'histoire de l'humanité. Alors vous me direz, mon père, mais il faut donc être toujours sur ses gardes et les persécuter. Jamais. Un catholique ne peut pas persécuter des Juifs parce qu'ils sont Juifs. C'est pas catholique. Alors un exemple, je parle pour les jeunes, les anciens, nous savons ça, mais les jeunes, on dit tellement de choses dans les revues, dans les journaux, cette télévision, que les jeunes ne peuvent plus savoir quelle attitude faut avoir. Alors, le catholique, vous avez l'exemple de Pie XII. Un peu d'histoire pour les jeunes, nous les anciens, nous savons ça, mais les jeunes ne savent pas. En disant ça, pour illustrer, en 1942, le pape Pie XII, qu'on a tant sali, on a calomnié, Pie XII, vous savez que le pape, c'est l'homme le plus renseigné du monde, par les ambassades, dans tous les pays, par les religieux, dans le monde, l'homme le plus renseigné, c'est le pape. Le pape apprend, Pie XII, que le grand rabbin de Rome, qui s'appelait Israël Zoli allait être arrêté par la Gestapo, Geheimstaatspolizei, parce qu'il était d'origine polonaise, etc. Alors, le pape apprend qu'on va arrêter le grand rabbin de Rome, je répète, que vous reteniez, Israël Zoli. Parce que vous savez, les jeunes ne savent pas, qu'il y a plusieurs bulles pontificales qui disent que quand les juifs sont persécutés et qu'on veut les mettre à mort dans un pays, et Dieu sait si ça s'est fait au cours de l'histoire, ils peuvent trouver refuge dans les états pontificaux. Alors, autrefois, les états pontificaux, c'était la moitié de l'Italie, c'était une zone neutre. Et le pape, il pouvait trouver refuge auprès du pape. Parce que c'est le peuple, n'est-ce pas, le peuple élu, qu'on n'a pas le droit de massacrer. Pas plus l'un qu'à l'autre. Alors, et reste au témoignage. Alors, Israël Zoli, c'est extraordinaire, cette vie, n'est-ce pas, il ne se fait pas dire deux fois, hop, il passe au Vatican et le pape le cache à la bibliothèque vaticane. Il y a des bâtiments, des étages, des couloirs, il est caché là. Et déjà, ce qu'il y a de beau dans cette vie de ce rabbin explique, c'est très beau, ça va nous aider, justement, pour la passion. Il était tout petit, petit juif, à l'école rabbinique, il était travaillé par la mise à mort du prophète Jésus. Vous voyez, petit juif, il disait, ce Jésus qu'on a crucifié, ça le travaillait. Vous voyez, déjà des grâces mystiques, prémonitoires. Bon, alors, il se cache au Vatican, et là, il a lu, le dit lui-même, il avait le temps de lire, ce sont la lecture du père Lagrange qui m'ont converti. Le père Lagrange est un des meilleurs exégètes, un dominicain, un professeur à la grégorienne, à la grégorienne, et puis il a fait des livres extraordinaires, n'est-ce pas, enfin, se servant de tout l'an, les pères d'église, bien sûr, toutes les prophéties messianiques, et il a bien vu que notre Seigneur Jésus-Christ, le Verbe de Dieu, tout était là pour montrer sa divinité, c'était bien le Messie. Il s'est converti. Il a voulu être baptisé par le pape. Et il a pris le nom du pape, Eugène, le baptême du pape. Il a été baptisé par le cardinal Taglia au bout d'un an et demi. Hein. Et côté baptiso, Eugenio, Zoli, égaté, baptiso, il nommait Patrice, et Filii, et Spiritus Sancti, il a été baptisé catholique. Le grand rabbin de Rome, en cachette, bien sûr. Fin 44, l'Italie est reprise par troupes américaines, troupes françaises, troupes polonaises, etc. On remonte l'Italie, Rome est libérée, mettons entre guillemets, parce que j'ai beaucoup à dire là-dessus. Et puis, ce sont les Juifs qui condamnent à mort Zoli. Les Juifs condamnent à mort, et il a fallu qu'ils se cachent en Suisse, après aux États-Unis. Voilà, vous avez tout résumé là. Nous ne devons jamais persécuter des Juifs parce que Juifs. Mais on a le devoir qu'ils ne dirigent pas notre pays. Or, ils ont en main toute la presse, tout le cinéma, l'enseignement, par les courroies de transmission, comme la franc-maçonnerie, qui est leur création à eux, etc., etc. Nous avons le devoir, nous Français, qui ne font pas des lois pour nous tuer, les petits Français, 250 000 par an. Toutes ces lois contre la famille, c'est les Juifs. De Wirth, Naquet, Weil, etc. Celui qui ose s'appeler Beaulieu, là, qui est Schwarzenberg, Blum, il s'appelle. Non, pas un breton, ça. Ne rions pas, s'il vous plaît. Alors, voyez, mes chers messieurs, donc, nous voyons notre devoir. Et alors, notre Seigneur va donc les condamner à mort et il prend cette croix. Cette croix, messieurs, elle pèse 90 kilos. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, porter 90 kilos. C'est surhumain. Et il va mettre une heure pour faire 500 mètres. Une heure pour faire 500 mètres. C'est-à-dire les arrêts, les chutes. Et des fois pour se relever, même du temps. Alors, mes chers messieurs, là, il y a une expression en latin qu'il faut expliquer. Enfin, le mot latin, baiulans, crucem. En latin, ça veut dire il prend avec les bras, il embrasse la croix. Mes chers messieurs, il y a une très grande leçon pour nous. Les croix, vous les connaissez tous, nos croix, un deuil, une maladie dans la famille, surtout si elle est longue et dispendieuse, les enfants handicapés qui ratent leurs études, qui n'ont pas de travail, on n'a plus de travail, la révolution demain peut-être, la guerre, la famine, je ne sais pas, voilà les croix. Eh bien messieurs, nous devons les embrasser. Parce que ce sont une monnaie d'échange pour nos péchés. Et les saints, comprenez ça, il faut que nous comprenions. Si nous découvrons que ça, ces exercices, ça serait bien suffisant. Ces croix me font avancer vers Dieu, vers ses noces éternelles. Donc embrassons la croix, ne nous plaignons pas. Comme dit le curé d'Ars, la plus lourde des croix, c'est la peur de la croix. N'ayons pas peur de la croix. C'est le démon qui nous fait peur de la croix, qui nous engrossit les épreuves. Par exemple, les croix passées, elles sont passées. Ne les ressassons pas, elles sont passées. Les croix futures, elles ne sont pas encore là. Il y a des gens qui sont là à ressasser ici à ça. Mais le présent, ça, et nous avons la grâce suffisante pour le présent. Si la croix se présente à nous, nous avons la grâce correspondante pour la porter. Si ce poids de la croix augmente, la grâce va augmenter aussi. Nous n'avons aucune croix qui n'est plus lourde que nous ne pouvons la porter, mes chers messieurs. N'ayez pas peur demain soir en rentrant chez vous, parce que le démon va vous en montrer des montagnes. Non, ne marchez pas. Aucune croix n'est plus lourde que nous ne pouvons la porter, mes chers messieurs. Souvenons-nous-en. N'ayons pas peur de la croix. C'est le démon qui essaye toujours. Tu pourras pas, tu peux pas. Et il y aura ça. Chaque jour suffit sa peine. Pour ce qui est des persécutions futures, n'oublions pas cette parole de l'évangile. Tous les cheveux de notre tête sont comptés. Donc alors, de quoi vais-je redouter? Alors notre Seigneur va d'abord, il va y avoir une première. Alors Pilate, avant de les mettre en route, il fait sortir de prison deux autres malfaiteurs. Vous voyez, il y avait deux autres brigands. Alors Pilate l'a tête cassée, il dit, mais c'est pas que jamais j'ai vu ça encore. Faites sortir encore les deux qui sont en prison. On n'a pas fini le jugement, mais qu'on les mette pour la Pâque, j'entends plus parler de tout ça. Et on fait sortir deux brigands et une prophétie qui se réalise encore. Il sera crucifié entre des malfaiteurs. Alors ces deux hommes qui, ils vont d'ailleurs injurier hein, sur la croix, hein, notre Seigneur, on leur donne cette croix et ils partent ensemble. Mais notre Seigneur en tête. Alors, notre Seigneur va avoir une première chute. Cette première chute, notre Seigneur, beaucoup de mystiques, des pères de l'Église, ont vu dans cette première chute, la chute des chrétiens en général. Mes chers messieurs, ne restons pas à terre. Si par impossible, il y avait des péchés, même graves, après la retraite, relevons-nous tout de suite. Ce n'est pas pour rien quand vous avez pris la résolution de la confession tous les 15 jours. Il y a des retraitants qui se confessent chaque semaine. Mais ne dépassons pas 15 jours, 3 semaines, surtout pas un mois. Ne restons pas à terre, parce que le démon nous fera tomber une autre fois alors. Relevons-nous tout de suite, acte de contrition parfaite, avec l'intention de se confesser. Je pense que vous le savez, c'est dans tous les catéchismes, si par malheur on commet un péché, surtout grave, n'est-ce pas, il faut tout de suite faire l'acte de contrition parfaite, et on a l'état de grâce, avec l'intention de se confesser au plus vite. Je pense que vous le savez, ça peut être utile en temps de persécution. Tout de suite, acte de contrition parfaite, on se jette à genoux, et l'intention de se confesser. Il ne faut pas attendre plus de 48 heures. Ou bien prêtre, se confesser. Alors, l'absolution et la certitude, là, oui. Alors, monsieur, notre Seigneur se relève et il continue sa route. Alors, nous avons la rencontre avec notre dame. Mes chers messieurs, là, je ne peux pas vous expliquer, ni vous ni moi, nous ne pouvons comprendre cette souffrance de notre dame. Nous sommes des hommes, nous n'avons pas de tempérament féminin, nous ne savons pas ce que c'est que le sentiment maternel, nous pouvons avoir le sentiment paternel, mais pas maternel. Alors, nous ne pouvons que imaginer ce que c'est que cette souffrance de la maman. Vous remarquerez, comme le font remarquer les pères de l'Église, pendant la Passion, on ne voit pas une seule femme contre Jésus. C'est même le contraire. La femme de Pilate, vous avez entendu, qui le disait, ne le condamne pas, il est juste. Notre-Dame, tout de suite. Véronique, tout à l'heure. Les Juifs, à la 8e station, qui se frappent la poitrine. Toutes les saintes femmes au pied de la croix. On ne voit pas une femme contre Jésus. L'Évangile ne le relate pas. Alors, Notre-Dame est là, et Notre-Dame a voulu participer à cette passion. Alors, elle était à Jérusalem, elle a une maison, mais Thomas se mariait, et elle veut. C'est Saint-Jean qui devait lui dire. On pense que c'est Saint-Jean qui venait, madame, dès 8h du matin, madame, la veille déjà, madame, on l'a arrêté, et on s'est tous sauvés. Ne me dites pas qu'elle a pu dormir, Notre-Dame, dans cette nuit, entre le jeudi saint et vendredi saint. Et dès le matin, Saint-Jean qui allait voir, qui revenait, « Madame, on l'a arrêté, il est au tribunal. » Voyez un petit peu les souffrances, même de Saint-Jean. Et alors à 11h, un peu avant 11h, quand Saint-Jean est rentré, « Madame, on l'a condamné à mort, on l'a condamné à mort. » Notre-Dame était sous son prie-Dieu, relisant tous ces textes de Jérémie, d'Isaïe, du salutaire souffrant, qu'on mènera à la mort, comme l'agneau qu'on mène à la boucherie. Tous ces textes, elle les connaissait. Alors Notre-Dame va sur le passage. Et là, elle se met dans une ruelle. L'endroit Jérusalem a été bien identifié, n'est-ce pas? Elle est là, Notre-Dame, et elle voit passer son divin fils. Mes chers messieurs, c'est ça qui doit nous aider à aimer nos épouses avec affection. Les épouses sentent des choses que nous ne sentons pas. Pourtant, c'est des juifs. Nous verrons tout à l'heure. Une mère qui voit passer son... Et quel fils! Les mamans n'aiment pas qu'on dise du mal de leurs enfants. On voit cette haine contre son divin fils. C'est impensable. J'ai eu une fois, je le raconte parce que j'ai... Là, j'ai compris un peu. Ça m'a tellement... Je m'en souviens comme si c'était hier. C'est resté. J'avais une mère devant un enfant mort. C'était une noyade. J'étais venu trop tard. J'ai sorti cette fillette de l'eau. C'est pas facile, vous savez, de sortir un noyé de l'eau. Je l'ai sorti. Je l'amène, cette petite, elle avait 4 ans. Je l'amène dans mes bras. Je monte cette écluse, avec cette petite dans mes bras. En haut, il y avait les hommes qui attendaient. Je monte, la mère ne savait rien. Cette fille avait disparu depuis 11 heures. Son frère pleurnichait, on ne savait pas expliquer. Et la mère aussi. Je monte et j'avais la force de monter. C'est pourtant pas facile. Je me grippais, je me tenais, je la montais. J'avais encore. C'est pas facile un cadavre, la tête penche partout, vous savez bien. Je monte, mais à mi-chemin, j'ai entendu la mère qui approchait et qui voyait donc ces hommes penchés sur le canal. J'ai entendu ce que j'avais jamais entendu de ma vie, un cri dans une douleur, ou une douleur dans un cri. Messieurs, messieurs, pourtant j'ai le cœur bien accroché, je ne pouvais plus. Je tremblais, pas petite, la mère, j'avais jamais entendu ça. Il a fallu que quelqu'un descende, m'aider à la montée. Mais la mer, je vous rappelle, je n'ai pas pu manger presque 48 heures. Ah, parce que j'étais à l'enterrement. Oui, c'est sa fille aînée, 4 ans. Alors, mes chers messieurs, ça c'était une petite de 4 ans et demi. Mais là, il s'agit de votre dame. Cette sensibilité, cet amour pour ce divin fils. Aucune mère n'avait le même amour, aussi fort, aussi intense, aussi désintéressé. C'est le Rédempteur. Et voilà qu'il passe sous elle. Notre Seigneur n'aura pas un mot pour sa mère. Tout est dans le regard.
Maman, vous acquiescez pour le salut du monde?
Notre-Dame s'est effondrée. On a une chapelle à Jérusalem, le spasme de Notre-Dame, n'est-ce pas? C'est Saint Jean et Sainte Femme qui ont retenu Notre-Dame pour qu'elle n'arrive pas, qu'elle ne tombe pas au sol. Et du même, vous voyez, ce regard qui se croise, ça a vraiment coupé les jambes à notre Seigneur. Il ne peut plus marcher. L'officier s'en aperçoit, n'est-ce pas, que le premier des condamnés n'avance plus. Alors, vous voyez, il n'avance plus. À l'officier donne des ordres, tout de suite, à un sous-officier, le premier n'avance pas, c'est pas à nous les soldats du temple, ils sont les Romains, d'ailleurs. Arrêtez un passant, alors le sous-officier arrête un passant, ordre des officiers, il faut aider le premier là-bas en tête, le condamné. C'est Simon de Cyrène. Pourquoi l'évangile nous donne ce détail? Simon de Cyrène, père d'Alexandre de Rhodes. Qu'est-ce que ça vient faire là? Tous les chrétiens des premiers siècles savaient très bien. Mes chers messieurs, sachez ça, les pères de famille ici. Dieu nous récompense dans nos enfants, quand nous sommes de bons chrétiens, de bons éducateurs, et que nous comprenons que nos enfants, ce sont nos trésors. Dieu nous récompense dans nos enfants. Vous voyez, Simon de Cyrène, d'abord c'est un peu forcé, c'est obligatoire, tu vas, c'est pas. Et il va porter cette croix avec notre Seigneur. Et il sera récompensé dans ses enfants. Alexandre et Rufus, tous les deux vont devenir chrétiens. Un va devenir évêque. Les deux seront martyrs, certainement un sous l'empereur Néron. Voyez. Donc, mes chers messieurs, souvenons-nous toujours, nos enfants sont son trésor et nos actes bons vont avoir les retombées sur les enfants. C'est une grande leçon, là, père Alexandre de Rufus. Et aussi la leçon, mes chers messieurs, ça je crois que vous, la plupart d'entre vous, sinon tous, vous le comprenez, que c'est la passion de l'Église en ce moment. Il ne s'agit pas de critiquer, de gémir. Il s'agit d'agir, mes chers messieurs. Gémir, ça c'est négatif. Critiquer, c'est négatif. Mais agir. L'Église a besoin des élites. Et je pense, je ne suis pas le seul, puisque les papes le disent, Pio, que beaucoup de choses repartiront par la France, fille aînée de l'Église. Tous les 37 ici présents, vous avez quelque chose à faire dans ce combat, dans cette croix à porter, dans cette passion de l'Église. Je pense que c'est déjà beaucoup au point dans vos résolutions. Ne serait-ce que faire rentrer dans la section d'anciens retraitants, de recruter pour les retraites, d'organiser des voitures, etc., comme ça se faisait il y a 25-30 ans. À ce moment-là, le clergé était tout favorable. Maintenant, vous n'avez pas le clergé conciliaire avec vous. Vous savez bien, mais vous pouvez... Si vous amenez un prêtre aux exercices, c'est mieux que 50 retraitants. Je l'ai vu. Les prêtres conciliaires qui viennent aux exercices, je l'ai vu plusieurs fois. Remettre la soutane. Disent la messe traditionnelle et comprennent le combat. Et particulièrement ma génération est un peu plus âgée. En dessous, c'est beaucoup plus difficile. Mais ceux de ma génération ont été formés à la tradition. Ils souffrent. Si vous les aidez à venir en retraite, leur passer des cassettes, des bonnes cassettes, je l'ai vu ça. Tous les prêtres que j'ai venus venir aux exercices sont venus par des laïcs. Nous sommes au sud-ouest, je peux dire le cas de l'abbé Delpech, de ici Jacques. Il était lui-même, il était tendre, il voyait bien la dérive. Mais c'est l'exercice de Saint-Ignace qui ont dit, maintenant je descends dans l'arène. Et je refuse dans mon évêque de dire que cette messe protestantisante. Là, ici Jacques, pour que vous le connaissez, un exemple pour nous tous. Et il dit à qui veut l'entendre, et ainsi Saint Ignace m'ouvre les yeux. Alors, messieurs, messieurs, quel travail il y a devant vous. Que de travail. Faites-le intelligemment, respectueusement, charitablement. Mais que de choses à faire. Faites-le avec amour. N'oubliez pas que dès demain soir, quand vous allez rentrer dans ce monde, vous avez affaire à des gens qui ne sont pas des pervers, mais des gens victimes. De quoi? D'une télévision, d'une presse, judéo-maçonnique. Ils sont victimes, ne les assommez pas. Comprenez qu'ils sont victimes. Tout cet environnement. Alors il faut les éclairer lentement, charitablement, avec persévérance, et appuyé par la prière, l'oraison. Si vous faites votre oraison de 30 minutes tous les jours, vous en ferez du travail. Alors notre Seigneur, donc, il était aidé à porter cette croix. Seulement, il n'y voit plus. Il n'y voit plus pourquoi? Parce que le sang est descendu dans les yeux, comme il a reçu des coups de poing. Vous avez vu des boxeurs, n'est-ce pas? Les yeux se gonflent, il y a des ecchymoses. Alors, il y a des crachats, de la sueur, du sang. Le Seigneur ne le voit plus. Alors, il cogne d'un côté les soldats, d'un côté. Quand il veut reprendre le mieux, il cogne à l'autre côté, n'est-ce pas? Il y avait quelque chose à faire, messieurs, et aucun homme n'aura le courage de le faire. C'est une femme, parce que nous sommes trop victimes du respect humain. Le qu'en dira-t-on? Or, Véronique, n'est-ce pas, ne se moque, se fiche de ce qu'on va dire. Elle traverse. Est-ce qu'elle a reçu des coups de pied? Est-ce qu'on l'a même piqué? Elle traverse. Et elle met ce linge sur le visage, la sainte face. Et miracle, n'est-ce pas, il y a la reproduction, la sainte face sur ce linge. L'authentique est à Rome. Là, messieurs, il faut que je vous lise cette prière qui est unique de la Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Vous savez qu'elle s'appelle Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Son nom en entier, cette religion, c'est cela. Écoutez cette prière, elle est unique. De prière dans l'Église, mais celle-là, je ne crois pas qu'on la trouve ailleurs. On sent très bien que c'est une carmélite qui l'a faite. Il faut être uni à Dieu, j'allais dire 24 heures sur 24 pour faire une telle prière. En plus, on voit que c'est une femme. C'est pas un homme n'aurait pas cette sensibilité de cœur qu'elle a. Et puis troisièmement, on voit que c'est une Française, n'est-ce pas? On voit cette harmonie, ce rythme dans la poésie presque. Ô Jésus, dans votre cruelle passion, êtes devenu l'opprobre des hommes et l'homme de douleur. Vous voyez, elle reprend les psaumes et Jérémie. Je venais votre divin visage sur lequel brillait la beauté et la douceur de la divinité. Maintenant devenu pour moi comme le visage d'un lépreux. Encore l'ipsaume. Mais sous ces traits défigurés, je reconnais votre infini amour. Et je me consume du désir de vous aimer et de vous faire aimer de tous les hommes. Regardez cet esprit missionnaire. Vous êtes missionnaire à cause de sa santé, sa phtisie, on ne dirait pas. Oh, les larmes qui coulèrent si abondamment de vos yeux m'apparaissent comme des perles précieuses que j'aime à recueillir afin d'acheter avec leur valeur infinie les âmes des pauvres pécheurs. Ô Jésus, dont le visage est la seule beauté qui ravit mon cœur, j'accepte de ne pas voir ici-bas la douceur de votre regard, de ne pas sentir l'inexprimable baiser de votre bouche, mais je vous supplie d'imprimer en moi votre divine ressemblance, de m'embraser de votre amour afin qu'il me consume rapidement et que j'arrive bientôt à voir votre glorieux visage dans le ciel, ainsi soit-il. Pourquoi Saint Pédis nous dit que Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, c'est la plus grande sainte des temps modernes. 9 ans de Carmel, mes chers messieurs. La plus grande sainte des temps modernes. Or, elle n'a jamais prêché, fait des grandes austérités, rien. Mais l'ordinaire, avec un amour infini, mes chers messieurs, c'est là. C'est pour ça, la plus grande sainte des temps modernes. Elle n'a rien fait d'extraordinaire. pas des grands jeux, pas des grandes flagellations, pas des prédications, là. Rien. Rien d'extraordinaire, mais l'ordinaire, le tous les jours, avec un amour quasi infini. Quel exemple pour nous. Alors, notre Seigneur continue sa route, il voit mieux, n'est-ce pas? Donc il ne cogne plus à droite, il ne cogne plus à gauche, et arrive la deuxième chute. Mes chers messieurs, cette deuxième chute des âmes privilégiées y ont vu la première chute, les chrétiens en général. La deuxième chute, les consacrés à Dieu. Mes chers messieurs, il est impossible que vous ne soyez pas sensibles jusqu'au fond de votre âme pour ces 50 000 défroqués depuis le concile. Jamais l'Église n'a connu ça. Jamais.
Amen.
50 000 défroqués. C'est cette deuxième chute de notre Seigneur. Mes chers messieurs, je ne veux pas être trop long. Mais c'est pas possible qu'on laisse sous silence ce drame sacerdotal auquel je suis directement mêlé et vous indirectement mêlé. Je connais les défroqués. Il y a un cas que je voudrais que je ne raconte jamais aux retraites d'âme parce que c'est trop dramatique. Mais à vous, vous êtes assez solide pour entendre et supporter et que ça serve de leçon. Quand j'étais en Suisse, j'allais le dimanche, quand il n'y avait pas de retraite, pas de récollection, j'allais dire la messe à Genève. Il y avait à ce moment-là la messe au plein palais à Genève, dans une salle. Et un dimanche, je rentre là, il y avait à ce moment-là à peine une centaine de... Maintenant, il y a des milliers, à ce moment-là, il y avait une centaine seulement de Genevois. Je rentre. Puis je vois sur les visages et les gens qui... quelque chose qui les... Et tout de suite, un monsieur vient voir, il dit, mon père, il y a un drame dans cette chapelle. Ah, oui, mon père, je vais vous expliquer. Il parlait à des gens, il revient me voir, mon père, il y a un drame terrible. Il y a le papa qui est ici, tradition, et son fils, prêtre, qui était le premier à faire du social à Genève, à Carouge, le premier à défroquer son fils, vient de se suicider. Alors mon père, comme le papa est là, le papa est effondré, mon père, il faudrait prier parce que nous sommes tous serrés, nous aimons beaucoup ce papa. Alors je dis, j'ai une confession, je fais une messe, on n'a pas le droit de dire le nom, ni même, puisqu'il y a... Et puis, après la première messe, le papa vient me voir à la sacristie. Un homme un peu plus âgé que moi, il vient, mon père, mon père! Et il me serre. Mon père, je vous en supplie, mon père! Et puis, j'ai fait sortir dans votre cœur, j'ai dit, sortez, sortez. M'étreignait, mon père, vous devez me comprendre, mon père, il achève ma vie comme il a fait. Voilà. Et il m'explique tout ce que je vous ai déjà dit. Mais il m'explique surtout, il dit, mon père, ce qui m'a vraiment torturé, c'est que l'évêque m'a téléphoné et il m'a dit, il y aura l'enterrement à telle date. Alors, dans 3 jours, mon père, cet enterrement, ils m'ont fait souffrir, ils ont... Au lieu de prier pour demander pardon, ils n'ont fait que des compliments. Camarade Jacques a fait ça. Mon père, au lieu de demander pardon, il hurlait dans cette sacristie, je ne pouvais pas le... Mon père, je vous supplie, il faut prier, ils n'ont pas demandé pardon. Puis, je me suis mis la peine à tête. Voilà un des drames aujourd'hui, messieurs. Un des drames. Alors, ce qui est terrible, c'est... Alors, détail, messieurs, c'est assez grand et assez solide. Il s'est suicidé sur le lit conjugal. 3 enfants. Le lit tout rouge du sang de ce prêtre défroqué. Vous voyez un petit peu la forme de Pélatin, etc. Alors, mes chers messieurs, voilà un des drames de cette église considère ce qui justifie mille fois ce qu'a fait Monsieur Lefebvre. Je fais des prêtres, des saints prêtres, devant cette débandade de l'église. Alors si les prêtres en sont là, vous comprenez pourquoi les laïcs, vous autres pauvres laïcs, vous êtes des brebis sans pasteur, quand il n'y a plus de prêtres. Voilà un des drames, cette deuxième chute de Jésus, c'est la chute du sacerdoce. C'est pour ça, mes chers messieurs, ceux d'entre vous qui ont la vocation, qui ont un appel, n'essayez pas de vous cacher, vous trouvez des prétextes. Si vraiment il y a appel, il faut qu'il y ait appel. S'il y a appel, s'il y a des signes de vocation, atsum, je suis partant, Seigneur. Faites de moi, malgré mes péchés peut-être, faites-moi un saint prêtre qui répare, qui va remplir les créneaux, là où il y a des vides, 50 000 depuis le concile. Et il termine presque tous mal, messieurs. Un autre, il s'est noyé en Chine, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait, il s'est noyé. Un autre, il est mort dans le vin, en Alsace. Je vous raconte, messieurs, voilà comment le démon, n'est-ce pas, tiraille et enfonce toujours plus bas. Enfonce toujours plus bas. Alors je vous en supplie, mes chers messieurs, s'il y a des vocations parmi vous, il faut que vous deveniez de saints prêtres et monter. N'avez pas peur des études, peur de l'effort, du travail et des privations forcément. Mais tout ça, pensez au salut des âmes, messieurs. Combien d'âmes, quand on sait que c'est actuellement, messieurs, je le mets pas, c'est le moment. La fraternité est dans 23 pays actuellement. Toute cette civilisation chrétienne qui s'écroule. Mais l'Église a les promesses de la vie éternelle. Nous savons que l'Église sera toujours là, elle a les promesses de la vie. Mais cette passion d'Église, mes chers messieurs, ne nous sauvons pas, ne nous cachons pas, je vous en supplie, dans vos résolutions déjà, à mettre au point encore, si ce n'est pas tout à fait fait. Notre Seigneur continue sa route et il rencontre les femmes. 8e station. Vous voyez, ce sont des Juifs. Ces Juifs se frappent la poitrine. Vous voyez, ça c'est féminin. Ce sont des Juifs. Vous voyez le raisonnement, hein, toutes ces tribunaux de parodie du matin. Ça n'est pas des tribunaux. Ce sauveur, ce messie qui a guéri nos enfants, qui a béni les enfants, qui a ressuscité des morts, apaisé la tempête, mis multiplication des pains. Les mamans savent ce que c'est que de mettre du pain sur la table, n'est-ce pas? 5 personnes nourries miraculeusement. Elle se frappe la poitrine, vous voyez, ça c'est très féminin. Elle sent qu'il y aura un châtiment. Moi j'ai vu ça en Afrique, vous voyez, les gens, même païens, quand ils ont fait des choses graves, ils savent que Dieu va punir. Mais ils ont ce sens du sentiment divin. Ils ont fait que les païens. Il y aura un malheur parce qu'on a fait, on a fait mauvais. Je me rappelle encore. Il y aura quelque chose. Il n'y a qu'à prier, demander pardon. Alors ces femmes, vous voyez, elles se frappent la poitrine. Il y aura un châtiment sur nous. Et notre Seigneur, il les avertit. Femme, ne pleurez pas sur moi. Pleurez sur vous et sur vos enfants. Si on traite le bois vert, quand ça traite du bois sec, ça n'a pas deux interprétations. Ça veut dire, si celui qui est innocent et fait pénitence, qu'est-ce que ne doit pas faire le pécheur comme pénitence? Voilà. Et alors c'est là qu'il y a, évidemment, ces rappels, n'est-ce pas? La ville d'Éricide, n'est-ce pas? Il arrivera un moment où il y aura une montagne cachée nous, n'est-ce pas? Ça s'est ruiné de Jérusalem, n'est-ce pas? Qui a été un des plus terribles sacs de la ville, un des plus sièges les plus cruels de l'histoire. 1 million de juifs, plus 100 000 ont été rattrapés par les Romains, massacrés. Jamais on n'avait vu ça. On achetait pour un denier 7 juifs esclaves. On n'a jamais vu ça en histoire. Jérusalem, n'est-ce pas? La cité déicide. Mais notre Seigneur, femme, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous et sur vos enfants. Alors, messieurs, je ne voudrais pas être trop long, mais là, à propos des enfants, il faudrait que vous, les pères de famille ici présents et les professeurs ici présents, que vous ayez conscience de ce que c'est que l'école catholique. Femme, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous et sur vos enfants. Messieurs, messieurs, là, je cite un exemple de notre Alsace. Je suis alsacien de mère et de naissance. Nous avons été sous le régime allemand, guerre de 70 jusqu'à 1914. C'est l'Alsace-Lorraine qui a fait les frais d'une défaite. Passer à l'Empire allemand. Mais l'empereur d'Allemagne respectait le concordat en Alsace. Parce qu'il savait que le concordat en Alsace, s'il y touchait, ça rendrait les Alsaciens encore plus anti-germaniques. Fallait un petit peu. Alors les Allemands avaient respecté le concordat. Autrement dit, dans toutes nos écoles, il y avait la croix. Moi j'étais au lycée Fustel de Boulogne à Strasbourg, il n'y avait pas la croix, parce qu'il y avait des protestants et des juifs, mais il y avait les heures de religion, catéchisme, au lycée, aux heures de cours. Depuis que j'étais petit, il y avait à l'école primaire, il y avait, le prêtre venait, tout petit c'était un monsieur, et à partir du cours élémentaire c'était un abbé. J'ai appris ma Bible et au lycée, soi-disant laïque, il y avait le concordat d'Alsace. Au tribunal de Strasbourg, il y avait la croix. Le prêtre venait dans toutes les écoles, dans les villages, enseigner les sœurs chez les filles. Alors en 1924, n'est-ce pas, nous sommes devenus français en 1918, comme vous savez, Paris a voulu imposer les lois laïques à l'Alsace. Eh bien, mes chers messieurs, l'Alsace, comme un seul homme, s'est levé. Monseigneur Ruch en tête, n'est-ce pas, Légion d'honneur. 60 000 pères de famille devant la préfecture, avec des écriteaux. Nous sommes français, nous l'avons prouvé, nous avons le cœur français, mais les lois laïques, pas question chez nous. Nos enfants grandiront, on leur apprendra qu'ils ont un père, Dieu, qu'ils ont un héritage, la vie éternelle. Eh bien, il y avait des billets collectifs pour aller sur Paris, il n'y a pas eu besoin. Paris à Calais, devant une Alsace ferme, l'évêque en tête. Paris à Calais, nous avons gardé les lois du concordat en Alsace. Moi-même, j'en ai profité. Après, ils nous ont eu, en mettant des instituteurs, laïcars, etc. Ils nous ont eu lentement. Et maintenant, on n'en parle plus avec les évêques, etc. Mais alors, voyez, mes chers messieurs, comme c'est payant. La foi, c'est toujours payant. Je répète, 60 000 pères de famille. L'évêque en tête, devant. 1924. Femmes, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous et sur vos enfants. Cette bataille scolaire, il faut la continuer, mes chers messieurs. Soutenez les écoles, enseignez même, puisqu'il y en a qui enseignent parmi vous. L'enfance est un trésor, et il est tellement malléable quand il est petit. Il écoute tout, la Bible, tout ça avec une facilité, et il comprend la question de la grâce. C'est une joie d'enseigner les petits. Alors notre Seigneur continue sa route. Et il va tomber une troisième fois. Vous l'avez ici, cette troisième chute. Vous avez ici ce calvaire, la fondagra, calvari locum. Non seulement on y crucifiait les brigands, à savoir, n'est-ce pas que, je pense que vous le savez déjà, je rappelle, pour les Romains, il y a un citoyen romain, pourquoi Saint Paul a été décapité. Mais pour les brigands, c'était le supplice de la croix. Donc notre Seigneur, le supplice des brigands. Alors ici, vous avez donc ce calvaire. Et non seulement il y avait les croix de ceux qui ont été crucifiés, mais il y avait des crânes dans le sol, parce que les Romains, c'était très cruel, ça, n'est-ce pas? On laissait les crucifiés sur la croix, on les enlevait, même presque pas, parce que les oiseaux venaient manger, quand c'était, ça pourrissait sur la croix, et les oiseaux de proie venaient manger. Et donc, il y avait des croix dans le sol, des crânes dans le sol même. Calvari locum. Vous voyez les princes des prêtres qui sont là pour venir. En cas de recours en grâce, en faire attention. Il faut que cet imposteur ne soit plus pour la fête de Pâques du nombre des vivants. Alors ton Seigneur va donc se relever de cette troisième chute. Voilà la leçon qu'on peut retirer de cette troisième chute. Ce sont les mystiques qui nous la donnent. C'est pas le. Ne vous découragez jamais. Ne vous découragez jamais. Mon père, mais je suis retombé. Mon père, mais je suis retombé. Ne vous découragez jamais. Allez vous confesser. Pardon à Dieu. Faites une retraite encore. C'est le maître mot. Ne vous découragez jamais. C'est le démon, n'est-ce pas, qui décourage. Rappelez-vous les saints. Une fois qu'on est découragé, n'est-ce pas, il a encore pris sur vous, n'est-ce pas, davantage. Ne vous relevez-vous tout de suite. Même si c'est deux fois, même si c'est trois fois. C'est la grande leçon de cette troisième chute. La persévérance dans le bien. Et alors, notre Seigneur va arriver en haut, vraiment sur le haut du rocher, n'est-ce pas, le calvaire, et on va lui arracher les vêtements. Mes chers messieurs, là, je ne pense pas devoir m'en dispenser, ça. De vous donner une des grandes leçons de cette façon dont on arrache les vêtements, on les crucifie toujours tout nus. Notre Seigneur, sur la tradition, avait un simple petit sous-vêtement. Mais la tradition, tout historiquement, il est crucifié tout nu. Vous voyez la honte. Et là, tous les mystiques, mes chers messieurs, ont vu dans cette façon de mettre nu notre Seigneur l'expiation des immodesties. Et là, je m'arrête un instant, messieurs, en vous donnant trois phrases. Et je voudrais que les militaires ici présents la mettent bien dans la tête. Première phrase, elle est du Grand Orient. On l'a reproduit. Document secret du Grand Orient, 1905 ou 4. Maintenant, avec la loi de séparation donc, maintenant, par les couturiers parisiens, à ce moment-là, hélas, la France, avec les couturiers parisiens, les modes partaient à Londres, New York, Tokyo, c'est la France, hélas, qui donnait les modes. Écoutez bien le Grand Orient, première phrase, avec, par les couturiers parisiens, il faut tâcher de dévêtir progressivement la femme. 1905. Ainsi, la vieille morale obscurantiste de l'Église tombera. Faut que vous ayez ce jargon maçonnique en tête. La vieille morale obscurantiste de l'Église tombera. Et quelques décennies ensuite, l'Église avec elle. Ils ont gagné en première manche. Ils ont gagné en première manche. Les chrétiens ont suivi ces modes impudiques. Vous savez les dégâts que ça fait. Et ces changements, n'est-ce pas, je précise pas, vous savez bien. Les fendus, tout ça, qui font. Vous savez l'origine. La vieille morale obscurantie de l'Église tombera, et quelques décennies ensuite, l'Église avec elle. Donc ils nous pourrissent, pour nous pourrir. Moralement. Deuxième phrase, mettez-les l'une après l'autre. Lénine, vous la connaissez certains par cœur, mieux que moi. Lénine dit. Cet Occident chrétien et bourgeois, capitaliste, nous l'aurons en le pourrissant quand ils seront pourris par l'argent, par les mœurs, le laisser aller. Ainsi, le fruit pourri tombera de lui-même et nous les assommerons d'un coup de poing. C'est Lénine. Voyez, prenez la suite, voyez. Donc le programme, c'est de nous pourrir. Et le fruit tombera lui-même, et nous les assommons d'un coup de poing. C'est marqué le mot. Lénine, ça, messieurs. C'est historique. La phrase, on va trouver dans les. Troisième phrase d'un maréchal soviétique à l'école de guerre de Moscou, avant le 6 mars. Il dit ceci à l'école militaire de Moscou. Cet Occident capitaliste, impérialiste, nous ne ferons pas comme Hitler. En alignant des blindés et des panzers le long des autoroutes, nous les aurons en les pourrissant par la drogue. La drogue, le sexe, l'argent, ainsi pourri, nous arriverons à Paris, armes à la bretelle. C'est pas clair, ça? C'est une clarté magnifique. Mettez les trois phrases bout à bout, messieurs, et voyez quelle bataille dans laquelle nous sommes, messieurs. Voilà. Et étonnez-vous maintenant pourquoi ils nous font du porno et ils veulent nous pourrir jusqu'à dégoûter. Ben. Quand ils nous sont pourris. Ben. Et malheureusement, cette drogue qui rentre dans l'armée maintenant, je sais des nouvelles très précises. Même à la Légion étrangère, où pourtant on refuse 60% de ce qui se passe à la Légion étrangère à cause de la drogue. J'entends
Tant ça pour les ouvriers. Enfin, je ne sais des nouvelles. Vous n'en savez d'ailleurs autant que moi, certains. Ah, messieurs, vous voyez la France, donc, c'est pour... Les miens aussi dit, messieurs, la route de Paris passe par Pékin et Alger. Vous voyez les étapes. Alors, messieurs, si vous ne sortez pas de ces exercices, décidez à être des chrétiens, nous savons que nous aurons la victoire. Nous sommes du côté du plus fort, enfin de Dieu. Alors quelle lâcheté, ne pas descendre dans l'arène pour se battre. Nous avons tout ce qu'il faut, la grâce toute puissante de Dieu. Mettez ou bien les résolutions au point là. Alors, mes chers messieurs, donc voilà, après ça, on va crucifier notre Seigneur. Là, mes chers messieurs, c'est là qu'il faut écouter Saint Ignace qui nous dit « Je réunirai toutes les forces de mon âme pour m'exciter à la tristesse, à la douleur et aux larmes. » On couche notre Seigneur sur la croix, d'après le docteur Barbet, il y avait le transversal, il y avait d'abord les piquets, n'est-ce pas? Et on crucifie sur le transversal, d'autres disent non, il y avait déjà le bois entier, on crucifiait, peu importe, c'est pas moi qui vais départager. En tout cas, ce qui est certain, c'est que on met le Seigneur, n'est-ce pas, couché sur ce transversal. Un soldat tient le coup à cause des convulsions nerveuses, c'est terrible. Un soldat est à genoux de dos, là, qui tient les bras, d'autres le bras. Et on enfonce un clou comme celui-ci. Ce n'est pas l'authentique, mais c'est celui-ci. On lui enfonce le clou là. On ne l'enfonce pas ici. C'est faux. C'est les peintres qui ont reproduit des choses. L'un a reproduit. On a absolument certitude, d'après les documents historiques, d'après le Saint-Suaire, n'est-ce pas? Le seul, c'est ici. Et là, mes chers messieurs, d'ailleurs, vous sentez, les Romains n'étaient pas idiots, n'est-ce pas? Ils savaient très bien quand un clou est ici, quand ils sont sous la croix, n'est-ce pas? Quand la croix est debout, le poids du corps, ils se débattaient, ils tiraient, et ça se déchirait, et ils tombaient. Les Romains savaient très bien où est-ce qu'on crucifie quelqu'un. Le clou est là. C'est au milieu du massif carpien. Vous sentez très bien ce trou, d'ailleurs. Et là, là, ça tient. C'est encore la main. Ils ont percé les mains et les pieds, c'est encore la main. Mais c'est des souffrances, nous disent les médecins, les neurologues, atroces. Surtout quand le bras est distendu, n'est-ce pas? Il y a le médian qui passe là, artère, veine. C'est un centre nerveux. Alors quand le bras est distendu, ce sont des souffrances atroces. Et le sang qui coule tout le long. Mes chers messieurs, contemplons cela. Contemplons cette main transpercée. Cette main qui n'a fait que bénir, que sanctifier, apaiser la tempête, ressusciter des morts, qui n'a fait que le bien. Dans ta main gauche, notre Seigneur donne sa main gauche, on tire, on semble, vu le trou n'était pas prêt, qu'on a sorti, même la clavicule est sortie pour arriver bien là où est le trou. Et on, même clou, n'est-ce pas, on frappe là, comme dit Saint Jérôme, écoutons ce marteau frapper sur ce clou, écoutons ce qui s'est passé. Et mes chers messieurs, qui c'est qui frappe? Ce sont les pécheurs. Moi j'en suis. Si vous en êtes, messieurs, comment nous allons nous conduire désormais dans les tentations? Écoutons ce marteau. C'est toi, par tes péchés mortels, si tu l'as commis, qui frappe. Alors, notre Seigneur est tendu, on prend un clou un tiers plus grand, n'est-ce pas, pour les pieds. Alors, il paraît, il y a d'abord un premier clou, hein, le deuxième sur l'un et l'autre. En tout cas, c'est une souffrance atroce, n'est-ce pas? Et ça frappe. Hein? Encore les pécheurs, messieurs, si vous en êtes, qu'est-ce que nous allons avoir comme attitude désormais en voyant ce divin crucifié qui est innocent? Alors on relève la croix, n'est-ce pas? Et notre Seigneur, là, n'est-ce pas, il va faire 3 heures sur cette croix. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Hein? Non, mais c'est écrit tôt. Jésus Nazarenus Rex Judeorum. Jésus Nazareth, roi des Juifs. Colère des Juifs, n'est-ce pas? Quand ils voient cet écriteau, ils courent chez Pilate, enlevez cet écriteau! C'est blasphématoire pour notre nation. Il s'est dit roi, mais il n'est pas notre roi. Ah. Alors Pilate, c'est là qu'il a réagi, mais tard, n'est-ce pas? Ce qui est écrit est écrit! Puis j'ai moins le temps. Ils sont partis les Juifs. Alors, moi, je ne peux pas répéter, c'est pas. Quand les Juifs reviennent, n'est-ce pas, ces princes des prêtres, ils viennent sur cette croix et ils blasphèment. Comment des hommes peuvent-ils insulter Dieu? Avoir cet écriteau, n'est-ce pas? Si tu es le fils de Dieu, descends la croix et nous croirons en toi. Appelle ton père, qu'il te délivre. Et les païens qui passaient l'insultaient aussi, pour faire comme tout le monde. Alors, mes chers messieurs, désormais, ce grand respect pour notre divin maître, à la messe, habituons-nous au silence dans nos chapelles, à bavarder de bonnes génuflexions, toujours respecter le nom de Dieu. Il y a des savants qui, quand ils prennent notre Seigneur, ils lèvent même ont la tête découverte. Beaucoup de saints sont morts en prononçant le nom de Jésus, comme Jeanne d'Arc, les derniers mots, Jésus, Jésus, Jeanne d'Arc. Et combien d'autres saints? Alors, sur la croix, mes chers messieurs, notre Seigneur, on crucifie les deux à côté, il y a cette parole. Pas la peine que vous reteniez, enfin, ce serait bon que vous reteniez toutes les sept paroles, mais retenez-en quelques-unes. Quelques-unes qu'il faut savoir, mes chers messieurs. Père, Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ah ah! Mes chers messieurs, combien de saints sont morts et de martyrs en prononçant ces paroles? Je ne sais pas si vous avez lu le pasteur Von Brandt. Moi, je l'ai lu en assistant des mourants. C'est un missionnaire que j'assistais, il mourait. Il avait 3 jours pour mourir. À la nuit, on le veillait. On n'était pas toute la nuit, on se relevait, mais moi j'ai eu le temps la nuit, on priait bien sûr, on lui lisait l'imitation, on lui disait. J'ai eu le temps de lire les livres, les textes spirituels la nuit à 1h du matin, enfin, il y avait 3 jours. Je lisais les paroles avec un autre confrère, le livre du pasteur Von Braun, quand il était 12 mètres sous terre, dans une prison soviétique. C'est très édifiant, c'est vrai. Dans cette prison spéciale pour les prêtres, catholiques, orthodoxes et les pasteurs. Les commissaires soviétiques les chicotaient. Plusieurs fois par jour, quelquefois. Surtout quand on voyait qu'ils allaient céder. En disant, le sauveur du monde, c'est Staline. Lénine, Staline. Il n'y a pas de Jésus-Christ. Et puis, il frappait, défiguré même. Von Brandt a dit, j'ai vu des commissaires soviétiques se convertir. Des fois le voisin, des fois celui même qui le frappait, qui se mettait à genoux parce qu'il ne comprenait pas le soviétique qu'il réponde à de la haine ou par de l'amour. Le prêtre qui répond par de l'amour. Père, Père, pardonnez-le. Ça, le soviétique ne comprenait pas. Alors il en a vu qui se sont jetés à genoux. Mon Dieu, pardon, mon Dieu, pardon. Ils avaient pleuré devant des commissaires soviétiques qui lâchaient leur fouet, tout ça, ils se jetaient à genoux, en pleurant. Les autres arrivaient tout de suite, on lui enlevait le képi, on lui enlevait tous ses insignes, et on le faisait passer à côté dans la geôle à côté. Et on entendait pleurer, baptisez-moi! Et des fois, on avait le temps de le baptiser. Le temps de baptiser. À un moment donné, il se mettait à 2 ou 3 pour pas qu'il y ait de choses comme ça qui arrivent. Et il a une phrase qui est formidable. Une fois, il a dit, j'ai vu mourir sous les coups beaucoup de prêtres et des pasteurs même. Mais ce sont les prêtres catholiques qui savaient le mieux mourir. Il disait pas, lui protestant, qui savait le mieux mourir. Père, Père, pardonnez-leur, ça n'a pas de fond. L'ours soviétique. Alors, cette parole, il faut que nous la retenions. Ensuite, une autre parole, c'est la Sainte Vierge. Comment la Sainte Vierge est arrivée au pied de la croix? Dans ce tableau, vous avez, c'est en un tableau, vous avez tout un film. Les soldats qui se partagent les vêtements. Et la tunique qui est tirée au sort. Dans un casque, sous contrôle du sous-officier, la tunique, vous voyez, qui est probablement faite par la Sainte Vierge, n'a pas été coupée, mais tirée au sort. Les ténèbres qui commencent à envahir, les juifs qui partent, vers le temple, il se récepte, réfecte juif d'aller au temple. Il voit déjà par ce grondement de tonnerre, le tremblement de terre de plus en plus. Hop, au temple. Les saintes femmes à côté du tombeau et la Sainte Vierge, comment a-t-elle pu le passer? Alors là, voilà comment on l'explique Pas forcément par les apocryphes, n'est-ce pas? Les soldats d'abord, tenez, personne ne s'approchait. Et notre âme a dû s'approcher
du cordon militaire et dire aux soldats, je suis la maman de celui que vous mettez à mort. Je voudrais être au pied de la croix.
Le soldat ne cessait. Touché, il fait part au sous-officier et la mère d'un des condamnés. Et le sous-officier passe à l'officier. L'officier arrive, un capitaine, probablement un homme, un père de famille. Notre âme a répété à ce capitaine,
je suis la maman de celui que vous mettez à mort au milieu.
Vous êtes à ses pieds. Il a cédé contre tous les consignes. Écartez-vous, écartez-vous. Voyez, alors ils sont écartés et notre âme a approché. Et notre Seigneur a tourné son bras là.
Notre âme est au pied de la croix. Mater de Rosa, notre Seigneur, femme, pas ton fils,
Saint-Jean.
Saint-Jean, fils, voilà ta mère.
Ah, il y a des protestants qui sont convertis, moi j'ai vu en Afrique, avec cette phrase. Comment se fait-il que son second testament, après la messe, c'est sa maman? C'est sa maman. Mais en Saint-Jean, il y a tout le pauvre, il y a toute la chrétienté. Mes chers messieurs, nous avons une maman au ciel qui nous aime plus que toute autre maman. Ne manquez pas votre chapelet, c'est facile, même en voiture, de le faire terminer. Tu n'as pas eu le temps. Le soir, en famille. Votre chapelet, famille qui dit le chapelet, famille heureuse, famille qui ne le dit plus, famille qui sera dans les palabres. Autre parole de Jésus en croix, ce sont les brigands. N'est-ce pas? Comme je vous ai dit, Saint Matthieu dit, et ceux qui le crucifient avec lui, l'insultent aussi. Saint Luc, vous voyez, l'évangéliste, la miséricorde, le médecin dit non, hein. Enfin, il n'y a pas une erreur, n'est-ce pas? C'est que c'est Matthieu, quand on crie dans un groupe, c'est Luc 1. Alors vous devinez, vous voyez bien les paroles d'avant les évangiles. T'as connu ton enfant est là ? Sauve-toi et sauve-le et toi ! Et puis il insulte notre Seigneur. L'autre enfant dit, tais-toi ! Nous sommes des brigands ! Arrête de l'insulter ! Nous sommes des brigands, mais pas lui ! Arrête ! Puis il se tourne notre Seigneur et dit, Seigneur, souvenez-vous de moi dans votre royaume. Ah ! Mes chers messieurs, je vous supplie, c'est un missionnaire qui vous parle, il a 38 ans de sacerdoce. Que de fois des gens en croient qu'ils sont inconvertissables, c'est faux. C'est faux. La grâce de Dieu toute puissante, la prière avec les pénitences, ça décroche tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut. La grâce. Voilà ce brigand, n'est-ce pas? Et alors, comme le disent les pères de l'Église, ce brigand devait avoir entendu une fois ou l'autre, tout brigand qu'il était, voir des attroupements dans une synagogue, il avait dû écouter un ou deux sermons sur le pardon des péchés. Il a dû, cette parole n'est pas venue comme ça, fortuite. Il a dû entendre un sermon. Et vous voyez que ça revient les sermons. Moi j'ai vu en Afrique, j'ai baptisé un musulman, même un assez important personnage. Et alors toute la famille m'en a voulu, mais je l'ai baptisé. Et il m'a avoué le fils après que, à 50 ans avant à Dakar, il avait été à l'école des pères, et ça lui était revenu, le christianisme.
J'ai eu un peu de difficulté, mais j'ai été très souffrant. Je l'ai baptisé, confirmé tout ça.
Alors qu'il était musulman. Mes chers messieurs, la grâce de Dieu est toute puissante. Rappelez-vous, le condamné à mort, en 1888, je crois, ce criminel en France qui a été guillotiné, parce que criminel, criminel. Alors, en montant à l'échafaud, n'est-ce pas? Il n'a pas voulu. Enfin, c'est un fait historique en 1878. Alors, le prêtre était là, comme toujours, il doit y avoir un prêtre là.
Et il n'a rien voulu savoir. Non!
Le prêtre était là avec sa croix.
Convertissez-vous, il n'avait plus qu'une minute.
Non! Non! Et pendant ce temps-là, au Carmel de Lisieux, la petite Thérèse.
Seigneur, cet homme, je la veux.
La petite Thérèse, dans son Carmel. Et alors, ce qui est impensable, n'est-ce pas? Les cinq dernières secondes, ce criminel se tourne vers le prêtre.
Mon Dieu, pardon, il se jette à genoux.
Il a été guillotiné, on a retardé quelques minutes. Et il s'est confessé, là, frère. Absolution. Et un tel est après. Mais oui, dans le Carmel. Alors que personne ne peut. On dit, c'est fini, voilà un qui sera damné. Non! Non! Alors, mes chers messieurs, je vous en prie. Ne dites jamais dans votre famille, celui-ci, c'est fini, c'est faux. La grâce est toute puissante. Alors, notre Seigneur, n'est-ce pas, va avoir encore d'autres paroles. La parole « j'ai soif », tous les saints nous disent, c'est la parole missionnaire. « J'ai soif », c'est les âmes. « J'ai soif des âmes ». Et puis la parole « in manus tuas domine comendo spiritum meo ». Mes chers messieurs, là, je suis obligé d'évoquer encore un missionnaire que j'ai assisté, qui mourait. Alors, pareil, n'est-ce pas, on lui... Alors, c'est le même cas, c'est le même missionnaire. Et quand on lui chantait, on lui lisait l'imitation de Jésus-Christ, la passion, on lui lisait l'évangile, on lui lisait le chapelet. Et de temps en temps, toute la nuit, on ne faisait pas que chanter, mais de temps en temps, on chantait. Immanus tuas domine. Ah, je me rappelle, il ouvrait les yeux. Alors qu'il était en commun, il ouvrait les yeux pour le remercier. Il ouvrait les yeux. Alors qu'il était, il parlait à la mort. Et il est mort, ce missionnaire, enfin, je me rappellerai toujours, le vendredi de la Passion à 3h du matin. 3h du matin. C'est celui qui est à côté de moi qui lui a donné l'absolution. Vous voyez, vendredi de la Passion, pas le vendredi saint, le vendredi avant, à 3h du matin. Bon, alors, mes chers messieurs, donc, ces paroles, nous devons les retenir. Je voudrais que vous reteniez aussi, ça peut vous servir de contemplation, le consommatum est. Ah, il faut écouter les saints nous commenter cette parole. Consommatum est, ça ne se traduit pas, ça veut dire tout est consommé. J'ai tout fait la volonté de Dieu durant ma vie. C'est ce qu'il faut qui arrive le dernier jour de votre vie, la dernière heure, messieurs. Il faut que vous puissiez dire ça. Consommatum est. J'ai fait la volonté de Dieu dans les grandes lignes de ma vie. J'ai pas triché. Il y a eu des entorses, des incidents de parcours, des péchés. Mais dans les grandes lignes de ma vie, j'ai fait ce que vous avez voulu quand c'était clair. Consommatum est. Quelle consolation! Au dernier jour de votre vie, à la dernière heure, mes chers messieurs. Rappelez-vous, consommatum est. Ça peut en servir pour certains dans leurs élections. Il ne faut rien précipiter. Mais, que ça avance. Consommatum est. Seigneur, que votre volonté soit faite. C'est la seule que j'aurai le bonheur. Et sur cette terre, et à ma dernière heure. Et dans l'éternité, bien sûr. Alors, 3 heures approchent. Vous savez comment fait un mourant quand vous avez vu des gens mourir, n'est-ce pas, à la fin, n'est-ce pas? Le râle se fait de plus en plus accentué. Notre Seigneur pousse un grand cri. Et c'est la mort. La tête tombe sur la poitrine. Et immédiatement, la création marque le déicide. Ce tremblement de terre. On a, géologiquement, on voit bien cette fente. Il y a au moins une fente qui a plus de 20 mètres de profondeur. N'est-ce pas ? Un tremblement d'air terrible. Les rochers se fendent. Panique des Juifs qui vont au temple. Alors au temple, le grand voile du temple qui se déchire par le milieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas deux interprétations. Fini ce temple, fini les sacrifices de l'Ancien Testament. Tous ces agneaux qu'on immolait, tous ces veaux qu'on mettait le sang sur leur. Fini! Il n'y a plus qu'un seul agneau de Dieu. Agneau de Dieu qui enlève les péchés. Voilà la nouvelle alliance. Ce temple sera rasé. Une génération suivante. 40 ans chez les Juifs, une génération. Ce temple, il ne restera pas pierre sur pierre. Il n'a plus de sens. Ce voile est déchiré. Il n'y a plus qu'une seule alliance. C'est pour ça tout ce judaïsme actuellement. Voilà. Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde. Le voilà l'agneau. Alors, c'est la panique générale. Vous voyez bien ce tremblement de terre, ces éclairs, ce tonnerre. Même les militaires ne comprennent plus. Exclamation militaire. On a crucifié le Fils de Dieu. Vous voyez, les soldats qui paniquent. Ils ont du mal à l'air. Avec ce tremblement de terre, ces ténèbres après les 3 heures. Et Pilate. Qui est aussi affolé, bien sûr. Alors, Joseph d'Arimathie, qui avait un beau tombeau, là, il demande le corps. Alors, Pilate, j'y veux le corps. J'ai un tombeau tout neuf. Et il donne le billet. Mais Pilate dit, mais que les soldats viennent mettre la pierre devant et les sceller. Parce qu'ils ont parlé de résurrection, ce serait pire que tout. Ça va être une catastrophe, une guerre, une véritable guerre. Mettez les scellés, quoi. Alors, on met des soldats. Alors, pour ça, on descend notre Seigneur de la croix. Mais il y a une grande leçon, là. On ne va pas les passer à la va-vite, c'est pas possible. Alors, il faut savoir aussi que les Romains laissaient les crucifiés sur la croix des heures entières, jusqu'à ce qu'ils mouraient. Et les gens très robustes, qui n'avaient pu manger, le Seigneur n'a pas mangé, n'a pas dormi, n'a pas bu. Vous savez que c'est très... très douloureux. Si vous avez des blessés, n'est-ce pas, quand le sang coule, on a soif, on a soif. Alors, Pilate dit, puisque les ténèbres sont là, il est tellement affreux, achevez-les tous. Achevez-les tous. Alors, l'ordre est donné, achevez-les. Alors, l'évangile dit bien, on brisa les jambes des deux brigands. Qu'est-ce que ça vient faire là? Alors, il faut savoir que, comme il restait longtemps sur la croix, comment un condamné arrivait à survivre un peu? Il est très robuste, c'est arrivé quelquefois dans les crucifixions d'esclaves, qu'il y a eu des recours en grâce. Alors, les crucifiés, pour survivre, parce qu'ils mouraient de congestion et de tétanie, alors, ils étouffaient. Ils étouffaient. Alors, pour ne pas étouffer, ils s'appuyaient sur leurs pieds. Ils tournaient un peu les poignets, ça faisait très mal, mais on les entendait crier, mais ils inspiraient et survivaient. Une heure et demie. Au bout d'une heure, ça recommençait. Alors, ils s'appuyaient. Et puis, hop! Alors, pour les achever, on cassait les tibias. C'est la massue de combat romaine, n'est-ce pas? C'était très facile, la jambe repose sur la croix, tac, on entendait bien le tibia se casser, tac, et alors quelques moments après, hop, il mourait, puis il y avait l'hémorragie en plus. Alors le deuxième pareil, n'est-ce pas, tac, tac, sur les tibias, hop, il meurt, touche pas au milieu, touche pas, il est mort. Et alors, ces longs jambes, c'est historique, c'est un sous-officier, n'est-ce pas, qui est à cheval, on voit très bien la position de la lance. Pourquoi a-t-il passé sa lance ici? C'est très... Vous pensez bien que les Romains dans l'Antiquité et encore dans le Moyen-Âge, quand on voulait tuer quelqu'un, surtout quand il est tombé de cheval, on envoie la lance là, à un endroit précis qui pique l'oreillette droite du cœur, et c'est la mort instantanée. Ça sent bien ça. Alors, c'est pas difficile, il met son cheval en position, n'est-ce pas? Et il ouvre le côté, c'est bien dit dans Saint-Jean, il ouvrit le côté, vous voyez? Il ouvrit le côté, la lance, cette lance de cavalerie, qui touche l'oreillette droite du cœur, et hop, il la sort, et il en sort du sang de l'eau. Mesdames, messieurs, le Sacré-Cœur est transpercé. Vous êtes tous français ici, messieurs, attention. Le Sacré-Cœur s'est branché spécialement sur la France. C'est Pie XII qui le dit dans son encyclique Henrietti Sacroise. C'est pas Saint Jean Heut, c'est lui qui a la messe du Sacré-Cœur, qui l'a faite. Il a été admis d'abord en Pologne. Vous avez Saint Jean Heut. Sainte Marguerite Marie à la coque, Claire Ferchaud, Madame Royer, que de foi le Sacré-Cœur, vraiment, c'est ça. Léon XIII a dit que Paray le Monial, c'est le haut lieu après la Terre Sainte. C'est le symbole de l'amour de Dieu sur l'humanité, Paray le Monial. Et n'oubliez pas, messieurs, messieurs, un rappel pour les jeunes ou les anciens, on sait ça par cœur, c'est en 1689. Que Sainte Marguerite Marie la Coque demande à Louis XIV de mettre le Sacré-Cœur sur l'étendard royal. Ça n'a pas été fait. Les historiens se sont chamaillés pendant longtemps. Est-ce que c'est le Père Lachaise qui n'a pas transmis? Est-ce que c'est le Parlement qui n'a pas voulu? Est-ce que Louis XIV a y attendre? Aujourd'hui, c'est Louis XIV qui n'a pas voulu. On le sait par Fatima, on ne le sait pas. C'est Louis XIV qui n'a pas voulu. Or, messieurs, messieurs, je ne vous fais pas de dessin. 1689, à partir de là, si vous regardez bien l'histoire de France, ça se dégrade lentement. Ça se dégrade. Perte de l'Inde, perte du Canada avec Louis XV. Ça se dégrade. Et nous arrivons à 1789. Je ne vous raconte rien de plus, vous savez très bien. Et nous nous relèverons qu'en remettant le Sacré-Cœur sur notre drapeau. C'est tellement clair. Mes chers messieurs, est-ce que c'est pas un scandale? Tous les pays musulmans mettent le croissant, l'étoile, tous les soviétiques mettent l'étoile, tous les maçons mettent des étoiles et tout. Tous les symboles. Et nous, catholiques, on n'a pas le droit, on est laïcs, comment ça? La vraie religion n'a pas le droit d'être. Les juifs font mettre l'étoile de Salomon, les juifs, les japonais mettent le soleil, chacun a son idéologie, sa religion sur le drapeau, il n'y a que nous qui c'est défendu. C'est quoi ça? Ça se paiera ça? Ça se paye déjà, vous le voyez bien. Mes chers messieurs, il faut qu'on remette le drapeau français sur le Sacré-Cœur, sur notre étendard. Ça ne sera pas autrement. Rappelez-vous, en 14-18, enfin, mon père me racontait, chacun met son Sacré-Cœur caché, là. D'autres ont fait le fagnon, des chefs de corps ont mis le fagnon Sacré-Cœur. Alors, mes chers messieurs, il ne s'agit pas de tergiverser sur des choses aussi graves. Alors, notre Seigneur est descendu de la croix. Alors, il est sorti du sang de l'eau. Vous écoutez, Saint-Thomas, le symbole des deux sacrements, le baptême et l'Eucharistie. Alors, notre Seigneur va être descendu de la croix. Et c'est là que nous allons, messieurs, aller à la chapelle pour contempler ça. Parce que notre Seigneur, vous savez bien comment faire hein, le corps, la sainte face, n'est-ce pas, qui se penche, n'est-ce pas. Si tout arrive en bas, on enlève la couronne d'épines. C'est notre âme qui a dû y travailler aussi avec Joseph d'Arimathie, Nicodème, les saintes femmes. Et Notre-Dame reçoit sur ses genoux et dans ses bras son divin Fils. Mes chers messieurs, c'est là que va s'achever notre contemplation à la chapelle, devant la Pietà. Qui c'est qui a mis à mort son divin Fils? Ce sont les pécheurs. Moi j'en suis. Si vous en êtes, qu'est-ce que nous allons dire à la maman? Ou qu'est-ce que nous n'allons pas dire? Il y a des silences qui sont éloquents. Mais souvent les larmes parlent à la place de la bouche. Alors nous allons bien contempler Notre-Dame. Cette douleur intense qu'elle a eue en voyant cette mort de l'innocent alors que l'air est l'immaculé. C'est là, messieurs, que, au bout de moments de silence, nous ferons notre consécration à Notre-Dame. Pour l'instant, nous allons à la chapelle.